Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi, nous sommes le 10 mai. Visite ministérielle aujourd'hui pour soutenir Valérie Ayer dans le département du Rhône et notamment à Lyon. L'école Rockefeller a mis en place un fonds social pour pouvoir proposer des aides urgentes pour les étudiants en difficulté. John Manson doit sortir ce vendredi de l'hôpital à Lyon pour se rendre à Aurillac pour une convalescence. La déclaration des revenus, le barreau de Lyon mobilise les troupes et organise une journée des contribuables. Ce sera jeudi prochain. Pour fêter ses 100 ans, le restaurant Paul Bocuse ouvre ses portes au grand public lundi 20 mai. Dans cette édition, nous parlons également cuisine, alimentation et bons produits. Avec Laetitia Chalandon, elle a créé Mâchons pas les mots, un média libre et indépendant à la fois culinaire et engagé. Et puis nous terminerons par les Nuits Sonores, 21e édition. Ça se passe jusqu'à dimanche, notamment aux grands locaux à la Mulatière, mais pas que.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Jean-Noël Barrot, vient soutenir la candidate Valérie Ayer à Lyon durant ce pont de l'Ascension, précisément ce vendredi. Les militants et sympathisants de la majorité présidentielle iront à la rencontre des citoyens et citoyennes pour les sensibiliser aux enjeux de cette élection européenne qui a lieu, je vous le rappelle, le 9 juin, un seul tour. Les militants en Renaissance se retrouveront notamment à proximité des parcs dans le Vieux-Lyon et dans tous les lieux touristiques et de détente. Les trois candidats rhodaniens de la liste Besoin d'Europe, Ambroise Méjean, Daniel Attias et Laetitia Pichon, rejoindront le ministre à 15h à l'entrée du parc de la Tête d'Or devant la porte des Enfants du Rhône. L'école Rockefeller à Lyon a mis en place un fonds social pour pouvoir proposer des aides urgentes à destination des étudiantes et étudiants touchés par la précarité dans le secteur social et santé. 37 000 euros ont été réunis pour cette année 2024 grâce à plusieurs fondations, la Fondation de la Caisse d'Épargne, la Fondation des Notaires engagés du Rhône et la Fondation Banque Populaire. Ces fonds aident les étudiants à se loger, manger ou s'acheter des abonnements TCL. Ils permettent aussi parfois de combler l'arrêt des aides régionales en juin quand les études s'achèvent, elle, en septembre. Jim Manson doit sortir de l'hôpital ce vendredi à Lyon après un incident cardiaque mardi à l'issue d'une audience dans le dossier pour diffamation qu'il oppose à la fille de l'acteur Richard Berry. La chanteuse âgée de 73 ans avait été prise d'une forte douleur thoracique. Son pronostic vital n'est plus engagé. Jim Manson doit être transféré à Aurillac afin de poursuivre son traitement. La déclaration de revenus, vous avez jusqu'au 21 mai si vous la faites version papier, mais vous avez en revanche jusqu'au 6 juin si vous passez par le numérique. Le barreau de Lyon organise en tout cas une journée des contribuables, l'objectif étant de conseiller gratuitement les habitants qui doivent renseigner en ligne leurs revenus avant le 6 juin. Une vingtaine d'avocats assureront des consultations gratuites le jeudi 16 mai, donc jeudi prochain. Des jeunes primo-déclarants, des étrangers qui ont une obligation de déclaration en France pour la première fois, ou encore des primo investisseurs qui ont une interrogation sur leur Airbnb. Tout public sont attendus, des jeunes aux seniors. C'est sans rendez-vous de 9h à 16h dans les mairies des 6e, 8e et 9e arrondissements et dans une annexe de la mairie de Lyon 2 au 111 rue Smith. Il est préférable de venir avec sa déclaration, c'est donc jeudi prochain.
Lyon demain, cuisinez-moi.
Pour fêter ses 100 ans, le restaurant Paul Bocuse ouvre ses portes au grand public sous réserve d'inscription le lundi 20 mai. Une visite gratuite pour plonger dans l'univers du cuisinier du siècle. On pourra ainsi découvrir le lieu, les salles, les cuisines mythiques et échanger avec les équipes. Mais les inscriptions sont closes. Elles avaient été lancées mardi à 14h15. Il aura fallu seulement 15 minutes pour remplir les créneaux. À présent, nous allons parler d'une cuisine beaucoup plus accessible. Vous voulez tout savoir sur l'alimentation et en particulier sur les bons produits. Je vous propose de découvrir Mâchons pas les mots, un média libre et indépendant, à la fois culinaire et engagé, créé en 2023 par Laetitia Chalandon. Il a pour but de rendre visibles différentes initiatives pour donner des repères, des bonnes idées et de l'inspiration. Décryptage de l'actualité, recettes de chefs, portraits d'artisans, produits de saison. Laetitia nous lance même un défi, celui de nous faire aimer les légumes, tous les légumes. Nous avons rencontré Laetitia Chalandon pour découvrir son média.
C'est venu en fait d'une observation de terrain. Pendant 5 ans, j'ai été gérante d'un restaurant pédagogique où l'idée était de pouvoir éveiller aux saveurs, à l'assiette, mais aussi à ses coulisses et transmettre en fait à une jeune génération le travail qu'il y avait derrière ce qu'ils mangeaient, ce qu'ils aimaient manger ou ce qu'ils aimaient découvrir. Et donc les sensibiliser au travail des champs, au travail des cuisines et de transmettre toute une histoire culinaire et un savoir-faire. Petit à petit, on s'est rendu compte avec la chouette équipe que j'avais à cette époque que les jeunes se sont mis à changer un peu leurs habitudes alimentaires. Ils ont osé déguster parce qu'on leur expliquait en fait ce qu'il y avait dans leurs assiettes et on les aidait en fait à comprendre ce qui se jouait dans la bouche, les saveurs, les découvertes gustatives, comment se forment les souvenirs culinaires, tout cet environnement-là qui participe à créer les madeleines de Proust. Petit à petit, ils ont eu envie de déguster des choses un peu plus difficiles d'accès et de s'intéresser aux produits, aux enjeux, aux terroirs et de créer un lien plus d'équité, changer leur regard sur le travail des cuisines. Et ça, ça a été vraiment révélateur en fait d'une société qui est coupée de la manière dont on produit l'alimentation aujourd'hui et qui a besoin d'être en lien, de reconnecter avec la réalité de la terre et avec la dignité des métiers.
Ça, c'est ta première expérience, mais dans ton enfance, qu'est-ce qui t'a initié, toi ?
Qu'est-ce qui m'a initié ? Moi, je suis une enfant de la montagne. J'ai grandi en pleine nature, dans un petit massif au cœur de la Savoie qui s'appelle le Massif des Bauges, dans lequel, j'ai construit mon identité à travers des paysages de montagne, la nature. Quand je sortais de l'école, la première chose que je faisais, c'était jeter mon cartable en bas des escaliers de la maison en pierre, d'attraper mon vélo et d'aller pédaler dans les champs, être dans cette liberté absolue qu'ont les enfants de la campagne, en fait, de pouvoir s'éloigner de la maison et de profiter de la nature, de cet environnement qui est rassurant et qui a un grand terrain de jeu. Je pense que c'est ici que se sont déployées les premières sensations que procure le vivant. Ensuite, mes parents avaient des activités touristiques et agricoles, notamment de la confection de jus de pomme et confiture bio, de la randonnée en âne, un jardin pédagogique, pas mal de choses. C'était un peu des précurseurs dans les années 90. À l'époque, on les appelait les alternatifs, qui ont été dans cette idée de ferme un peu plurialiste. On va chercher pluriel, on va chercher de la diversité pour assurer des revenus diversifiés. Et cette idée de l'éducation populaire, de l'éducation à l'environnement. Donc, ils sont aussi précurseurs des SCOP, et notamment des coopératives d'activité. Ils ont beaucoup contribué à leurs essors. Et donc, moi, j'ai baigné dans un collectif et j'ai baigné dans cette idée paysanne, puisque mes arrière-grands-parents étaient paysans sur plusieurs générations, qu'on se nourrit du jardin, on se nourrit de ce qu'on produit, de ce que la saison offre. Ce qui était d'ailleurs rigolo, parce que pour moi, dans ma conviction d'enfant, les produits étaient bons parce qu'ils venaient du jardin. Mais il n'y avait pas véritablement de sens culinaire à la maison. J'ai découvert ça en arrivant à Lyon avec les expériences en restauration où là j'ai eu un bug parce que j'ai rencontré un chef qui cuisinait des plats exceptionnels mais avec des produits sortis de l'agro-industrie. Enfin, et là je comprenais pas comment il arrive à avoir des saveurs comme ça alors que les produits sortent pas du jardin. J'arrivais pas à comprendre. Et ça a été rigolo parce qu'en fait on s'est sensibilisés tous les deux. Lui, il a fait mon éducation un petit peu au goût et moi je lui ai transmis cette sensibilisation au vivant. Sa femme aussi également. Et aujourd'hui il a un restaurant éphémère. Il cultive les légumes de son propre jardin dans le Brionnais. Et il continue à faire des plats incroyables.
Ton objectif, c'est de créer des liens autour de la table. Comment on crée des liens autour de la table ? J'ai l'impression que c'est naturel quand même de créer des liens autour de la table quand on mange en groupe, entre copains, entre amis, en famille.
La table, ça rapproche autant que ça clive, surtout aujourd'hui, parce que notre rapport à l'alimentation, il est bousculé par des enjeux dont on se serait bien passé. Je pense notamment au réchauffement climatique. Notre modèle de production agricole contribue à 38 ou 35% du changement climatique. Donc, il y a quelque chose à modifier, et notamment aussi sur la question de la surabondance. On produit beaucoup plus que ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, au niveau mondial, on produit de la nourriture pour 12 milliards d'habitants. Et il y a de la famine, et il y a de la malbouffe, et il y a plein d'injustices qui sont en ligne de compte. Donc, notre système, il marche sur la tête. Donc, aujourd'hui, on a besoin de sortir des modèles qu'on a mis en place, qu'on a créés. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, l'alimentation, nos habitudes, elles participent à créer une partie de nous-mêmes, de notre identité culturelle. Et s'en décrocher, c'est difficile parce que c'est un petit peu renier une partie de soi. On a tous ces madeleines de Proust, on a tous ces besoins, même si c'est de la danette au chocolat, on a quand même ce besoin d'en manger, ça nous ramène à une partie de nous-mêmes, de notre enfance, de nos habitudes, sans parler des coûts, de l'alimentation aussi. Donc aujourd'hui, c'est des questions qui ne sont pas évidentes. Et se rapprocher autour de la table, en fait, je pense, c'est simplement revenir vers des choses un peu basiques. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie pour demain ? Qu'est-ce qui est vraiment important ? Et simplement d'être conscientisé sur ces enjeux-là, sur ce qui se passe réellement, pour réussir petit à petit à se décrocher de certaines habitudes. habitudes, mais en douceur, sans que ce soit une injonction, mais plutôt que ça devienne une liberté. Parce que j'aurais compris ce qui se joue derrière mon achat. Peut-être que j'aurais envie de faire différemment. Mais quand on dit ça, on dit tout et on dit rien à la fois. Il est aussi nécessaire d'avoir des apports culinaires, des savoir-faire culinaires, parce que je pense notamment aux légumes. C'est des produits qui sont difficiles d'accès, puisque en fait, pour que le légume il soit bon, faut savoir le cuisiner, faut savoir le choisir. Et c'est pas quelque chose qu'on a appris ou qu'on apprend encore aujourd'hui. En plus, on est tous dans des vies assez trépidantes, donc comment on fait pour retrouver le temps de la cuisine, etc., etc. Et donc moi, mon ambition, c'est de pouvoir apporter des clés de compréhension à la fois sur le monde qui nous entoure, sur ces grands enjeux-là, et à la fois d'apporter des savoir-faire culinaires faciles qu'on peut reproduire chez soi sans danger, qu'on peut oser se remettre à la cuisine ou aller plus loin en cuisine quand on aime ça. Et en fait, actionner les leviers qui sont à notre disposition. C'est pas la peine de se culpabiliser en se disant « Oh là là, j'en fais pas assez ». C'est important de regarder juste les leviers qui sont à notre disposition. Et si le levier, il est juste dans le bulletin de vote, bien, il sera juste dans le bulletin de vote. Mais moi, mon intérêt, ça va être de donner des clés de repère pour vérifier qui va dans l'intérêt du mangeur et du producteur.
Quelles sont alors les solutions que tu proposes? Je crois qu'il y a par exemple des vidéos pour faire aimer les légumes, il y a des portraits. Explique-nous un petit peu les différents médias, les différents vecteurs de communication que tu mets en œuvre.
Il y a plusieurs portes d'entrée pour ma Champalémo, ça dépend du mangeur ou du lecteur que vous êtes. Il y en a un petit peu pour tous les appétits. Et bon, il y a le produit d'appel qui est « J'ai une minute pour vous faire manger des légumes ». Je me donne le défi de vous faire aimer du céleri en une minute ou de l'endive, ce genre de choses. Donc c'est soit par un biais historique ou culinaire, une recette ou simplement décrypter les goûts que je vais essayer de lever les a priori, les préjugés sur les produits et donner des petites bases de cuisine. Et puis après, il y a aussi pour ceux qui ont besoin de créer du lien, en fait, de se connecter avec vraiment les coulisses de l'assiette, c'est de mettre en valeur des artisans et des artisanes qui à un moment donné se sont dit, mon métier ne me fait plus rêver parce que je me rends compte des impacts que ça a autour de moi au niveau environnemental et au niveau humain.
Et là tu vas dans les boulangeries, dans les boucheries, dans les restaurants, dans les cuisines?
Ouais. On part à la rencontre quoi, on y va, parce qu'en fait il y a plein de gens qui font des choses incroyables, mais personne ne le sait, parce qu'eux, ils ont le nez dans le guidon, ils ont leurs valeurs, ils essaient de les mettre en application, mais il n'y a personne pour les valoriser vraiment ces valeurs, et en fait y aller ça fait un bien fou, parce que eux, ça les valorise, ça les conforte aussi dans leurs actions. Et puis nous, en tant que mangeurs, tout d'un coup, on peut prendre conscience qu'en bas de chez nous, il y a un gars, une nana qui fait quelque chose d'incroyable. Et cette chose d'incroyable, ben, ça va être par exemple pour Maillé, qui est boulangère, d'aller chercher son blé paysan chez des petites familles de paysans qu'elle connaît bien. Et ça va être de ne fabriquer que du pain et que de la brioche. Et son modèle économique, elle l'a transformé pour que ce soit rentable. Donc elle va payer bien sûr ses farines plus chères, mais au niveau du consommateur, ça va moins se ressentir parce qu'elle a adapté son modèle économique pour qu'elle puisse en sortir et que le consommateur puisse manger un pain de qualité. Et au final, tout le monde s'y retrouve. Et c'est ces solutions-là qui sont nécessaires de mettre en avant.
Et tout ça, on le voit, on l'entend, on voit des pâtes se pétrir, on voit des légumes se travailler.
On va pouvoir, en fait, à partir des parcours, des trajectoires de vie, apprendre, en fait, des uns et des autres et se rendre compte que ce n'est pas des super-héros, c'est des gens comme nous, en fait, tout simplement.
Il y a un petit peu de poésie aussi dans ce site internet.
Je crois que ça, c'est ce qui me constitue vraiment. C'est la part de rêve, je crois, et l'envie de divertir par cet aspect effectivement un peu poétique, un peu littéraire, parce que pour moi, ce qui est beau, et je vais être un petit peu hésitante parce que ça touche des choses plus intimes en fait, mais j'ai toujours été touchée par la beauté du vivant, la lumière du soleil sur des feuilles, sur des plantes, sur des êtres humains, la magie qui découle de tout ça. Et c'est quelque chose qui est important pour moi à transmettre. Et je cherche en fait à travers mes mots à toucher le cœur des gens et à essayer de rendre vraiment concrètes toutes ces sensations, tout ce sensoriel, à la fois des goûts, des saveurs et puis aussi de notre environnement.
On a bien compris, des mots, des vidéos, ça s'appelle Mâchons pas les mots.
Alors Mâchons pas les mots, c'est un site internet. Donc Mâchons, attention, hein, comme le Mâchon lyonnais, c'est un petit jeu de mots avec notre territoire. Donc Mâchons sans S, pas les mots, site internet sur lequel vous avez toutes les rubriques. Le mieux, c'est de s'inscrire à la newsletter parce que vous avez un sommaire qui arrive à chaque dernier jeudi du mois dans votre boîte mail. Il y a aussi un compte Instagram qui est accessible et une chaîne YouTube.
Merci Laetitia Chalandon.
Merci beaucoup Gérald.
Mâchons pas les mots.fr. Les Nuits Sonores, la 21e édition du Festival Electro, se déroule jusqu'à dimanche. Sa programmation se partage entre le nouveau site des Grandes Locaux à Oullins-la-Mulatière et le H7, le Sucre et la Sucrière côté Confluence, avec également des événements gratuits disséminés dans la ville les après-midi. Les organisateurs ont l'intention de développer d'ailleurs la partie diurne de l'événement dans les années à venir. Les DES du Festival de musique électronique débutent dès 16h et jusqu'à minuit aux Grandes Locaux, avec 4 scènes, un sound system signature, des immersions audiovisuelles, des lives performatifs et un grand dance floor urbain. Il reste de la place pour samedi ainsi que pour le closing day de dimanche. En journée, on peut aussi aller découvrir le travail de deux photographes, Noé et Mathilda, qui présentent l'expo Nightcore Archive, une plongée en images autour de la club culture et des rêves. C'est au Boomerang, 5 rue de l'Épée dans le 3e. Pour se renseigner, nuit-sonore.com. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se retrouve bien sûr lundi.